C'est aujourd'hui Jean-Bertrand Pontalis, mieux connu sous l'acronyme de JB Pontalis, qui est l'invité des Nouveaux Chemins. Me détourne de la croyance, de l'adhésion à une cause, à une doctrine, à un discours qui prétend dicter ses lois, faire autorité, le discours politique n'étant que le modèle du genre. Je tiens pour suspecte une pensée qui, en s'en défendant, a réponse à tout et tient à l'écart sa propre incertitude. Au cœur de cette réticence, je trouve le refus d'identifier un langage à la vérité. Cependant, comme tout un chacun, j'ai besoin d'évidence. Quelle joie quand elle s'impose, quand rien ne peut les altérer. Jean-Bertrand Pontalis, bonjour.
Bonjour.
C'est une joie de terminer cette semaine avec vous, autant vous le dire tout de suite. C'est un plaisir et une joie. Et on va commencer par cette phrase extraite de L'amour des commencements, dans laquelle vous décrivez un rapport, j'allais dire, étrangement, étonnamment popérien à la psychanalyse. On a le sentiment que vous vous méfiez, vous vous défiez d'une discipline qui prétendrait fournir une grille d'intelligibilité exhaustive. Vous êtes pourtant l'auteur d'un fameux vocabulaire de la psychanalyse. Donc on sent que vous vous méfiez de cette prétention à l'exhaustivité, finalement cette prétention scientifique de la psychanalyse. Et en même temps, on se dit que vous avez la nostalgie de ces évidences presque cartésiennes.
Oui, je suis pas d'accord. Popérien, parce que je crois que Popper critiquait la psychanalyse en tant qu'elle n'était pas une science et qu'elle prétendait l'être.
Popper critiquait le caractère non falsifiable de la psychanalyse, comme du marxisme d'ailleurs, voilà. Dont il disait c'est la preuve de sa faiblesse.
Exactement. Donc, on ne va pas s'engager la discussion de la psychanalyse est-elle une science. Pour une part, elle l'est. Je pense que l'apport, notamment l'interprétation du rêve à la science, est quelque chose d'incontestable. Mais ce que je dénonçais, c'était la croyance. C'est un peu différent. Je me souviens d'ailleurs qu'avoir écrit il y a déjà longtemps un texte qui s'appelait « Ne pas croire en la psychanalyse », en souligné, mais se fier à elle. C'était un petit peu bizarre quand même, c'était peut-être une façon de dire « vous pouvez vous fier à moi, mais non pas croire en la doctrine ».
C'est ce que j'allais vous demander, oui, parce que se fier à elle, c'est se fier en l'occurrence à son analyste.
Voilà. Non, se fier, ce que je voulais dire, c'est se fier au mouvement qu'elle entraîne, à la mémoire qu'elle réveille, à la liberté qu'en fin de compte elle doit donner, hein, même si on n'est que toujours que partiellement libre, très partiellement, puisqu'il y a un déterminisme social et surtout un déterminisme de l'inconscient, donc on n'est pas des sujets libres de parler entièrement. Mais ce que je dénonçais encore une fois, c'était l'idée au fond que la psychanalyse pouvait être comme une religion ou une théorie englobante ayant réponse à tout, et qu'elle était au contraire le lieu d'une incertitude. Alors, donc ne pas croire en.
Ne pas croire en la psychanalyse, mais donc se fier à elle, ou en tout cas se fier à la parole ou au silence également, oui. De son analyste.
Oui. Parce que c'est quand même très bizarre, il faut le dire et le redire, que maintenant la psychanalyse est tellement entrée dans les mœurs, enfin en tout cas pour un large milieu, qu'on oublie, qu'on en vient à oublier ce que cette situation est d'extrêmement étrange, pour ne pas dire d'assez fou, hein, d'aller pendant des années, s'étendre sur un divan. Avec un analyste qui n'est pas muet, comme on le dit toujours, mais enfin qui est dans le silence, à partir de quoi justement peut-être la parole, à la fois celle de l'analysant et la sienne, c'est une situation extrêmement étrange. Je pense souvent à ce que ça a pu être pour les premiers patients de Freud, quand il leur disait, ça n'a pas commencé tout de suite, hein, étendez-vous et dites ce qui vous passe par l'esprit, etc. Bon, ça devait être quelque chose qu'ils trouvaient vraiment fou. Maintenant, vous avez même des patients tellement informés qui vous disent Oui, je sais que vous ne direz pas un mot et c'est moi qui vais parler. Oui, bon, là, ce que je dément, évidemment, du coup, assez vite. Donc, il y a quelque chose de... C'est devenu une situation quasi banale, alors que c'est une situation non seulement étrange, mais quasiment folle.
Mardi dernier, quand on recevait Izzy Belair, il nous disait que le silence des analystes était de temps en temps une position de principe, mais le plus souvent que ça n'était pas le cas, qu'en somme, c'était un silence qui était d'abord lui-même lourd de sens, qui relevait d'une décision, et qu'en somme, c'était rarement une option systématique. En ce qui vous concerne, Jean-Bertrand Pontalis, quel rapport entretenez-vous avec le silence de l'analyste?
En tout cas, ne pas confondre le silence avec le mutisme. Le mutisme qui est un silence de mort, la mort muette.
Là, c'est un silence de vie.
C'est un silence de vie, c'est un silence qui accueille, qui ne refuse rien, et à partir de quoi, justement, toutes nos idées reçues, toutes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté fauteuil ou du côté divan, vont, sinon disparaître, du moins s'effacer, se réduire.
C'est à la faveur du silence que les choses se réduisent, s'effacent?
Pour une part, oui, c'est un retrait. Mais dans ce silence, comment vous dire, toutes les voix résonnent dans ce silence. Quand même, l'analyse, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez, au cours des séances, quelquefois au cours d'une même séance, des voix différentes. Vous pouvez entendre le bébé qui se voit dans le regard de sa mère, comme disait Winnicott, ou le bébé hurleur, braillard. Vous pouvez entendre l'enfant capricieux, vous pouvez entendre l'adolescent qui se cherche et s'inquiète sur son identité sexuelle. Vous pouvez entendre l'homme adulte qui se croit bien dans ses baskets. Vous pouvez entendre l'homme âgé qui s'inquiète de la mort à venir. Et c'est toutes ces voix que vous allez entendre, pas simultanément, mais l'une après l'autre. Donc le silence permet d'accueillir aussi qui me parle en ce moment. Qui me parle? Qui suis-je en train d'entendre parler?
On est ici au cœur, j'allais dire, d'une contradiction, mais probablement à tort, disons peut-être d'une tension propre à la psychanalyse elle-même, qui est que cette discipline, ou cette science, ou cette jeune science, comme disait Freud, est à la fois dotée, on l'a vu plusieurs fois, d'un arsenal théorique extraordinaire, dont vous-même, je rappelle qu'aux Presses universitaires de France, vous êtes le co-auteur du très fameux La Planche et Pontalis, qui, comme son nom l'indique, vous doit pour moitié son existence. Donc,
c'est pas un Lagarde et Michard.
Ça n'est pas du tout un Lagarde et Michard, c'est même d'une certaine façon le contraire, tant c'est bon, le vocabulaire de la psychanalyse. Mais vous êtes l'auteur du vocabulaire de la psychanalyse. C'est un arsenal théorique que vous avez vous-même parcouru, j'allais dire presque de façon exhaustive, et un bagage considérable, et en même temps ce bagage débouche sur une pratique qui, elle, bien souvent, ne consiste qu'à se taire.
Oui. Mais on a besoin... Enfin, c'était pas une théorie, le vocabulaire de la psychanalyse, c'était au contraire essayer de montrer... en faisant une sorte de recension des concepts de Freud, des concepts les plus connus, mais aussi ceux que nous avons vraiment fait sortir, qui n'étaient pas mis au premier plan, c'était plutôt un démontage de l'appareil théorique qu'un traité. C'était le contraire d'un traité de psychanalyse. Bon, et puis il faut dire que ça s'est passé il y a longtemps, ce travail, c'était entre les années 60 et 67, et pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était un moyen d'entrer dans l'œuvre de Freud, que je ne connaissais pas mieux que n'importe quel étudiant à l'époque. Freud n'était pas très à la mode, on n'enseignait pas, comme vous le savez, en philo, ni même à l'université. Donc, un moyen d'entrer. Et puis maintenant, le temps est passé, c'est vrai que sans du tout renier ce travail, il est derrière moi, il est loin derrière moi. Et j'éprouvais de plus en plus de besoin aussi, dans la mesure où je commençais ma pratique, à penser que ce qui m'apprenait quelque chose, c'était mes patients, plus que je n'avais pas le vocabulaire sur ma table
vous
à côté de moi.
Vous parlez, Jean-Bertrand Pontalis, de vos patients comme de vos maîtres.
Oui.
Pourquoi? À quel titre?
Parce que je ne suis pas très original. C'est eux qui, justement, vous déconcertent, vous troublent. Vous font quitter vos certitudes. Chaque patient est différent. Et en plus, chacun est différent de vous, par son histoire, par son milieu social, par sa singularité.
Est-ce que vous diriez...
Donc il vous sort de vous-même.
Et donc ce fameux devenir autre, qu'on a entendu d'ailleurs, on a lu le texte de vous, dans lequel vous parliez de l'analyse finalement comme un processus, ou de l'analyste justement comme s'altérant, au sens littéral du terme, c'est-à-dire devenant constamment autre, faisant cet effort de devenir autre pour rentrer dans un processus intrasubjectif avec le patient.
Oui, oui, il y a un mot très très fort, je crois, de Ferenczi disant à Freud, à propos de Jung, qu'il n'aimait guère, il ne sera jamais analyste, il n'accepte pas de se laisser démolir par son patient. C'est fort, hein. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois on soit démoli, mais on est en tout cas ébranlé, on est secoué. Ça veut dire que l'analyste a un effet, l'analysant, comme on dit maintenant, a un effet sur l'analyste. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment intersubjectif, au sens où ça serait dessus. Il y a une dissymétrie.
C'est-à-dire intrasubjectif.
Intrasubjectif. Ouais. Il y a une dissymétrie dans la situation, hein, évidente. Une dissymétrie nécessaire. Je ne fais pas mon analyse directement, je ne fais pas de confidence à mon patient. Hein. Je ne lui parle pas de moi. Et lui me parle de lui, ou plutôt de tous les autres qui sont en lui. Mais ça agit sur moi, et je pense qu'une analyse, ce n'est pas vrai dans tous les cas, qui ne modifie pas l'analyste, qui vraiment en profondeur, pas seulement de le faire un peu gamberger, mais qui ne l'atteint pas, sans aller jusqu'à le démolir, n'est pas féconde.
Emmanuel Kant, qui pense constamment dans son système les conditions de possibilité de la connaissance, distingue le jugement déterminant qui fonctionne par finalement application de loi à des cas particuliers, du jugement réfléchissant dans lequel il range notamment par exemple le jugement de goût, le jugement esthétique, partant du principe ou plutôt du sentiment que ce qui est beau est incontestablement beau, universellement beau, sans pourtant qu'on puisse déduire la beauté d'une théorie du beau. En somme, on sait ce qui est beau sans savoir ce qu'est le beau. De sorte que chaque expérience de la beauté, ce qui est valable pour le spectacle de la nature comme pour les œuvres d'art, chaque expérience de la beauté, d'une certaine façon, est jurisprudentielle, crée des normes nouvelles, des règles nouvelles. Est-ce qu'on peut appliquer ce modèle kantien d'un jugement réfléchissant à l'expérience renouvelée du rapport avec l'analysant ?
Je répondrai sans beaucoup réfléchir et sans être réfléchissant, je répondrai oui. Encore une fois, c'est la singularité de chaque être et la singularité de chaque expérience analytique qui vous modifie et fait que la théorie, elle est là tout à fait au fond. Mais théorie, vous savez, même...
Parce que reste-t-il dans ces conditions de la théorie ?
Attendez. Même Freud, vous savez, les concepts qu'il appelait fondamentaux, ils n'étaient pas très nombreux. C'était le refoulement, l'inconscient, la pulsion, etc. Et le reste, il considérait que c'était des échafaudages. Toute une batterie conceptuelle dont on se servait un temps, qu'on n'utilisait pas ensuite, qui était modifiée parce que l'expérience avait porté la contradiction. Vous savez, il y a un petit court texte de Freud, un titre en tout cas, un cas de paranoïa qui contredit la théorie psychanalytique de cette affection. La contradiction. C'est-à-dire, Freud, ça on ne le dit pas assez, je crois que c'est un bloc, c'est pour ça que je suis complètement opposé à l'idée d'un traité de psychanalyse. Il a cessé de, en fonction de l'expérience, de ce que lui apprenaient ses maîtres, les patients.
Mais ce que vous dites est si vrai, Jean-Bertrand Montalis, que quand vous avez parlé même de l'interprétation des rêves pour parler d'une ambition systématique, même dans l'interprétation des rêves, à la fin de l'interprétation des rêves, il y a la liste de toutes les objections qu'on pourra faire à la théorie qu'il vient de formuler.
Oui. Le droit de se contredire, comme disait Baudelaire, est essentiel.
Alors, on va continuer à se contredire en votre compagnie, Jean-Bertrand Pontalis. Et pour ça, on va entendre un texte de Leslie Kaplan, extrait du psychanalyste, dans lequel Simon, psychanalyste, s'ennuie en écoutant son patient. Et vous allez entendre qu'un soupir va sauver la séance. Écoutez.
Simon s'ennuyait à mort. Il était enfermé dans un ennui atroce, collant, un ennui absolu. On le tenait sous un couvercle plombé. Ce n'était pas seulement ce que disait ce patient, Édouard, qu'il était en train d'écouter, c'était aussi le ton, monocorde, plat, tout plat. Édouard racontait sa journée. C'est peu dire dans tous les détails. Il racontait tout. Comment il s'était réveillé, ce qu'il avait mangé au petit déjeuner, comment il avait choisi ses vêtements, sa cravate, le chemin qu'il avait pris pour venir... Il racontait tout, de ce ton monocorde, plat, tous les mots pareils, rien accentué, rien marqué, à croire que ça aurait été interdit de faire les différences. Un enfant débile. Au secours, s'entendit penser Simon, si violemment qu'il eut peur une fraction de seconde de l'avoir dit à voix haute. Mais c'était bien ça, au secours. Ce type était d'un ennui mortel. Bien sûr, il continuait. Ça pouvait durer longtemps. Simon soupira. Il laissa échapper ce soupir. Aussitôt, il se dit, aïe, il va me demander très content s'il m'ennuie. Et si je vous ennuie, je peux arrêter. Je sais bien que je vous ennuie, j'ennuie tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que je viens vous voir. Alors vous n'avez qu'à tenir bon, et je vous paie pour ça, non ? Et ça va durer. Simon avait ses pensées. Mais Édouard ne dit rien de tout ça. D'ailleurs, il ne dit rien. Si bien qu'au bout d'un moment assez long, Simon dit « Oui ?»« Je pense à ma mère, » soupira le patient. « Vous avez soupiré exactement comme elle. » Il soupira à nouveau et parla, comme il n'avait jamais parlé.
Pontalis, dans ce texte de Leslie Kaplan, le psychanalyste, on assiste à un malentendu. Il soupire parce qu'il s'ennuie, or le patient, l'analysant, entendant le soupir, dit « Tiens, vous soupirez comme ma mère ». De sorte qu'un malentendu débouche sur une rencontre, en somme un malentendu qui témoigne d'une altérité irréductible entre deux individus qui ne connaissent pas les pensées l'un de l'autre. Même l'analyste, d'ailleurs, par rapport à l'analysant, débouche sur un choc, donc un malentendu qui, lui, est producteur de sens fécond. Est-ce qu'on est là, justement, dans ce que une psychanalyse permet ?
J'ai deux remarques à faire. D'abord, ennui à mort, ennui mortel. Il y a beaucoup de morts là-dedans. Donc, on peut quand même penser qu'il y a un certain vœu de mort actif dans ce discours complètement neutre et ce que nous appelons un discours très obsessionnel. Deuxième remarque, même quand, parce qu'on a tous, tous les analystes connaissent ça, des patients qui racontent par le menu, l'emploi du temps de leur journée, etc. Mais même dans une narration comme celle-là, il se peut qu'il y ait une minuscule moment, une minuscule faille dans ce discours totalement maîtrisé. Et, toi, j'avais dit deux remarques, il y en a trois. Même dans la narration.
Peut-être les deux premières sont-elles là pour conduire à celles qui comptent. Allez-y.
Je ne sais pas si elles comptent. Dans la narration comme ça, systématique, méthodique, on peut l'entendre aussi comme un rêve. De même qu'on peut entendre un rêve comme un événement du jour, on peut entendre un événement du jour comme un événement de la nuit. Mais, cela dit, c'est extrêmement lassant d'avoir affaire à ce type de discours, mais on a toujours l'espoir, et là, le texte de Leslie Kaplan le montre, qu'à un moment ou un autre, de façon complètement inattendue, imprévue, il y a toujours de l'imprévu qui peut surgir, même dans ce qui est le plus prévu, organisé, prévisible. Comme dans la vie.
Justement, peut-être qu'on met là le doigt sur la résolution de la contradiction entre la théorie et une pratique où cette théorie est censée s'incarner, se résumer.
Oui.
Est-ce que toute la théorie n'est pas là comme, j'allais dire, un préambule, un préalable, presque le vestibule de la rencontre, en somme?
Peut-être la théorie, j'allais dire, est un certain garde-fou. Parce que si on n'avait aucun support théorique, c'est un peu comme les fondements d'une maison, si vous voulez. C'est-à-dire concepts fondamentaux, des fois, d'un Grundbegriff. C'est-à-dire, c'est les fondations d'une maison. Si une maison n'a pas de fondation, elle ne va pas tenir debout. Et elle va vaciller à la moindre tempête. Et ben voilà, donc on a besoin d'une fondation théorique, juste comme fondation. Les échafaudages, on s'en fiche, on en prend de temps en temps, on les supprime quand on n'en a plus besoin, quand la maison est assez solide, et le reste, on invente.
C'est intéressant de vous entendre employer le mot de concept, JB Contalis. Permettez-moi de vous appeler JB, je peux ou,
Bien sûr.
Mais alors, c'est intéressant de vous entendre employer le mot de concept, puisque vous donnez le sentiment, dans votre travail, j'allais dire presque à la fois d'analyste et d'écrivain. Vous êtes bigame, hein, c'est vous qui le dites. Hein, vous êtes analyste.
J'ai pas employé ce mot-là.
Si, vous avez parlé de votre bigamie, il me semble.
Attention,
mais,
oui.
Bon, en tout cas, vous êtes bigame au sens où vous êtes psychanalyste et écrivain, incontestablement et de plein droit, à tous égards. Et vous écrivez notamment hein, dans Fenêtre, un très beau livre, hein, Fenêtre au pluriel, qu'on trouve dans la NRF. Vous décrivez la méfiance que vous inspirent les concepts, au sens justement où les concepts ont quelque chose de totalitaire, où ils prétendent embrasser toute réalité. En somme, vous reprenez les termes d'une critique nietzschéenne du langage. Nietzsche considérait que le langage vitrifiait la réalité, fabriquait de la généralité là où il y avait des objets singuliers. Vous citez Nietzsche, hein, le concept est formé de l'oubli de ce qui différencie un objet d'un autre. De façon générale, il y a deux façons de s'intéresser à l'autre. Soit on s'intéresse à l'autre comme à son alter ego, soit on s'intéresse à l'autre dans son altérité.
Oui.
Le concept nous prive de l'altérité de l'autre.
Oui. Voilà, je suis plus que d'accord avec vous. Je m'amuse même, vous voyez, parce que le terme allemand, vous savez ça mieux que moi.
Begriff.
Voilà, je vois la griffe du concept qui vient abîmer la chose, abîmer
vous
l'être.
C'est un prédateur, un tyran. Plus encore, plus redoutable encore, l'ambition de bâtir un grand édifice de concept, bien cohérent, bien solide, résistant. C'est l'auteur du vocabulaire de la psychanalyse qui dit ça.
Oui, je sais, mais je me suis expliqué là-dessus. J'ai le droit d'évoluer.
Vous considérez ça comme une évolution?
Oui.
Vous étiez plus...
Bénéfique, en plus.
J'entends bien. vous étiez plus conceptuel à l'époque? Vous étiez plus...
Non, encore une fois, c'était un travail de recherche qu'on amenait avec la planche. Hein. C'était une façon, il y en a d'autres, d'entrer dans l'œuvre de Freud en allant un peu le mettre au travail, le décortiquer. C'était pas une recension pure et simple des concepts. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas les définitions, c'est le travail de commentaire qui fait jouer, justement, le concept, et en montre aussi la polysémie. Mais alors, si je peux ajouter un mot, ce que vous dites, bigamie, bon, soit, je l'ai dit, dites-vous, je l'ai écrit même, mais je n'ai jamais fait d'opposition tranchée entre mon activité de psychanalyste et ma pratique d'écrivain. Des différences, elles sont évidentes. Mais
Première différence, c'est que quand vous écrivez, c'est vous qui parlez, en un sens.
Oui, surtout dans ce que j'écris, hein, parce que c'est toujours très pas autobiographique, mais c'est vraiment ma voix qu'on entend. C'est ce que je cherche, avec l'espoir qu'elle aura quelque écho chez l'autre. Mais ce qui relie, je crois, tout ça, c'est l'inconnu. Je vais revenir un peu en arrière, parce que vous êtes philosophe, vous avez donc connu la classe de philosophie. Et je me souviens que avant, on avait suivi toutes les classes précédentes, et chaque année, c'était les mêmes matières qu'on nous enseignait à un degré de complexité plus élevé, hein, français, géographie, histoire, sciences naturelles, etc. Et quand on demandait à nos aînés qu'est-ce qui se passait en classe de philosophie, ils ne savaient pas quoi nous répondre. Tu verras bien. Eh bien, c'était... Même, je disais, mais comment est-ce que... Parce qu'il y avait 10 heures de cours à l'époque. Comment est-ce que... Je peux bien vous raconter pendant 10 heures ce Sartre, puisqu'il s'agissait de Sartre, vous laissez Pasteur en spécifique sur le Sartre.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Et la même chose, quand je demandais à des camarades qui étaient sur un divan, dans les années, comme ça, 50, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu peux rester des années? Tu dois quand même avoir fait le tour de la question. Qu'est-ce que tu peux encore avoir à raconter? Les analyses commençaient à devenir très longues. Même chose, pas de réponse. Tu verras bien. Donc j'y étais voir. Et là, donc j'y suis allé, là pour tout vous dire, un peu par curiosité, hein, parce que j'avais envie de parler avec ma propre voix et que comme professeur de lycée de Cagnes, j'avais le sentiment, je crois que j'étais pas un mauvais prof, mais que c'était pas ma voix. D'ailleurs, une élève m'avait dit, je raconte, je crois, dans l'amour des commencements, vos cours, je pense, très intéressants, mais on a l'impression que vous n'y croyez pas. Toujours la question de la croyance, vous voyez. Bon, sur le moment, ça m'a pas fait tellement d'effet, mais après coup, j'ai dit, quand même, elle a visé juste cette femme, cette jeune fille. Et j'ai cherché, donc, un lieu qui était l'analyse, où j'adhérerais à ce que je pouvais dire, où je trouverais un autre usage de la parole, pour parler comme Nathalie Sarraute, que celui du discours du professeur ou d'autres modes de discours.
En somme, trouver une parole qui ne soit pas réductible à l'ambition d'être explicable, intelligible et transmissible à une collectivité, puisqu'une classe, quand on fait cours à une classe, on s'adresse à une collectivité, il faut donc employer des mots dont la généralité est une condition, en l'occurrence. Alors que quand on écrit, avant d'écrire pour les autres, on écrit selon soi.
Selon soi et pour un lecteur inconnu, imaginaire. Pas ciblé en tout cas.
Mais si aujourd'hui, ce qui doit peut-être vous arriver, quand quelqu'un vient vous voir et vous dit, mettons un élève en première vient vous voir et vous dit, mais qu'est-ce qu'on raconte en terminale, qu'est-ce qu'un prof de philo en terminale vous raconte, ou quand quelqu'un vient vous voir, ce qui doit vous arriver encore plus souvent, en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe dans une analyse, qu'est-ce qu'on raconte, pourquoi on y reste aussi longtemps, qu'est-ce que vous répondez?
Mais je réponds mal.
On verra bien,
oui. Non, parce que généralement, ce qui motive quand même une demande en analyse, la différence de ce qui fut mon cas, ça n'est pas la curiosité apparente. Inutile de vous dire que c'est vite tombé et que je me suis aperçu que tout n'allait pas si bien que ça. Quant à l'élève de première, je crois que je saurais lui répondre.
Qu'est-ce que vous lui répondriez?
Je lui dirais, mais écoute, ou écoutez, des choses qui vous paraissent aller de soi, tout simple, je sais pas, moi par exemple, la mémoire, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez ce micro et que vous ne voyez pas cette affiche, comment vous sentez libre ou pas, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, parce que ce qui m'avait quand même alors très vite intéressé en classe de philo, et après, ceci est d'une banalité redoutable, c'est quand même la capacité d'étonnement qu'on s'étonne de choses qui paraissent aller de soi. Et tiens, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est pas si évident que quand je perçois cette bouteille, je perçois quoi, voilà, des choses comme ça.
On sent le sartrien, malgré tout. En tout cas, celui qui entretient avec Sartre un rapport complexe dans ce rapport que vous avez à l'étonnement, J.B. Pontalis, puisque, après tout, Sartre, le premier Sartre, celui de la nausée en tout cas, est le philosophe d'un étonnement qui n'est pas, justement, réductible dans une connaissance. Aucune vérité ne dissout l'étonnement qui accompagne celui qui a la révélation de l'existence des choses et de leur présence sotte.
C'est ce qu'il appelle la contingence. Ben, la nausée était ma grande lecture de jeunesse.
Alors on va raconter une histoire dans les chemins, puisque Anna Freud, la fille de Freud, qui en un sens a prolongé le travail de son père, enfin qui à sa manière a prolongé a eu notamment en analyse Marilyn. Ce que peu de gens savent, il se trouve que Michel Schneider a raconté, non pas évidemment la teneur de la conversation que pendant une semaine Marilyn avait eue avec Anna Freud, néanmoins voici le récit qu'il en donne. Écoutez.
Le traitement a été préparé avec beaucoup de discrétion et de célérité. Anna redoutait la publicité, mais après quelques hésitations, elle a fini par accepter de la prendre. Pendant une semaine, Marilyn Monroe ne vient pas sur le tournage. Nul ne sait ce qu'elle fait. Tous les jours, sa voiture s'arrête dans Marisfield Gardens. Tous les jours, elle disparaît dans le cabinet d'Anna Freud. Un jour, Anna emmène sa patiente au jardin d'enfants de la clinique. Marilyn s'anime, se détend, plaisante et joue avec les petits. Très impressionnée par le travail d'Anna, elle lui raconte qu'elle a lu l'interprétation des rêves à 21 ans. La description des rêves de nudité l'avait captivée. La nudité compulsive, le besoin de se déshabiller en public est un symptôme qu'elle a longuement exposé à sa première thérapeute. Anna forme son diagnostic et le transcrit sur un carton qui existe encore dans un fichier au centre Anna Freud. Le cas Marilyn y figure sous une forme codée. Patiente adulte, instabilité émotionnelle, impulsivité exagérée, besoin constant d'une approbation extérieure, ne supporte pas la solitude, tendance aux dépressions en cas de rejet, paranoïaque avec poussée de schizophrénie. Employant une technique de psychothérapie d'enfant, Anna Freud joue avec Marilyn Monroe. Elles se font face, séparées par une table et quelques billes de verre posées dessus. L'analyste attend ce qu'elle va faire avec les billes. Marilyn commence à les lancer une à une dans sa direction. Interprétation de la psychanalyste, désir d'un contact sexuel. Le traitement accéléré d'Anna Freud connaît selon elle un plein succès. Au bout d'une semaine, l'actrice reprend le tournage et le termine. Elle reprend l'avion pour New York le 20 novembre.
Where's that music coming?
Oh, never mind, darling. It's just that Hungarian I expect. You told me he played every night.
Every night. Oh, yes. But,
Never mind, my darling. I found a dream. Lay your eyes the whole night through. I'm yours, no matter what others may.
Juste un mot sur cette anecdote, finalement, cette anecdote significative que raconte un autre psychanalyste, Michel Schneider, dans Marilyn, dernière séance, paru chez Grasset. Donc il raconte cette rencontre entre Marilyn et Anna Freud. Ce qui est frappant, c'est la brièveté de cette rencontre, le fait qu'Anna Freud joue à des jeux d'enfants avec Marilyn, et puis le fait finalement que ça ne dure qu'une semaine. Qu'en pensez-vous ?
C'est pas une analyse, c'est en effet une rencontre. C'est assez curieux, c'est qu'Anna Freud, qui n'était pas médecin, pose un diagnostic de psychiatre, même comme peu de psychiatres oseraient le faire. Paranoïa avec un schizophrénie, je sais plus quoi. Bon, c'est assez curieux, ça. Mais en même temps, c'est pas idiot de sa part d'avoir senti, tout ça est très hâtif, hein, d'avoir senti l'enfant chez Marilyn, peut-être son désir d'enfant aussi. Et alors, je me souviens que quand Huston a fait ce film Freud, Passion secrète, qui est pas si mauvais qu'on le dit, Anna Freud s'est opposée à ce que Marilyn joue le rôle de l'hystérique qui était donnée à je ne sais plus qui, Suzanne Howard, je crois. Donc elle devait se souvenir aussi de cette brève rencontre.
Quand vous avez parlé de l'étonnement, on a parlé de Sartre, mais est-ce qu'au fond, l'enjeu...
On aurait pu parler de Socrate. Hein.
Mais de Socrate, c'est-à-dire du maïoticien par excellence, auquel, d'une certaine façon, l'analyste ressemble, on en a beaucoup parlé cette semaine. Mais en amont de Sartre et de Socrate, est-ce qu'il ne faut pas parler tout simplement de l'enfant ? Est-ce qu'au fond, l'enjeu n'est pas ici, et ce que vous dites du concept invite à le penser, l'enjeu n'est pas de retrouver la candeur perdue de l'enfance ?
La candeur, peut-être pas, parce que les enfants, c'est pas si candide que ça, hein. Il n'y a pas besoin d'être un grand freudien pour... Freud parlait de perversité polymorphe, perversion polymorphe, et ils sont pleins de désirs contradictoires et sont affamés, mais peut-être pas candeur, mais curiosité, sûrement. Curiosité, il n'y a pas de concept, hein. Peut-être nous créons un concept de l'enfant, mais l'enfant ne travaille pas avec l'aide de concept. Il est dans des sensations. Tout petit, il est dans l'avant-langage, ça j'y tiens beaucoup, c'est une de mes marottes, l'infance, le non-parlant. Et essayer, si paradoxal que ce soit, la fonction de l'analyse est de tâcher de donner la parole à ce non-parlant. Il n'est pas privé de parole, comme c'était qu'un manque. Il a accès à tout un monde que nous perdons, qui est le monde des sensations, notamment, du sensible, que le concept écrase. Un concept, c'est insensible.
Mais est-ce que le concept n'a pas été forgé justement pour écraser cela ?
Oui, pour...
Est-ce qu'on ne peut pas faire une généalogie du concept, en somme, comme né, avant d'être né du désir de connaître, comme né du désir, au contraire, de ne pas connaître, et qu'en somme, d'être séparé du monde par les moyens qu'on se donne pour le connaître ?
Oui, sûrement. Et peut-être, on va encore plus loin, de tuer l'infance.
C'est-à-dire de tuer le non-parlant, de le remplacer par la parole. Est-ce à dire, alors, mais quel est l'usage de la parole ? Est-ce qu'il n'est pas essentiellement ambivalent ici, de cette façon ? Puisque c'est par la parole qu'on retrouve finalement le verbe de l'infance.
Oui, mais dans le langage, il y a tellement de fonctions. C'est pas, vous voyez, sur la parole du divan, si je veux dire, la parole de la liste, c'est pas une parole informative. C'est même peut-être pas une parole de communication. La parole, c'est ouvrir, parce que comme tout n'est pas négatif dans le langage, hein, même s'il nous prive de ce monde de l'enfance auquel je faisais allusion, il est aussi un champ immense qui s'ouvre. La langue, c'est un trésor. Si vous ouvrez justement le trésor de la langue française, hein, vous voyez le champ sémantique, la richesse de la langue. Un même mot peut aller dans toutes sortes de directions, presque un champ au sens naturel du terme, c'est un champ où poussent toutes sortes de choses. Donc là, il y a une force extraordinaire aussi dans le langage, à condition d'être sensible à sa richesse, à sa polysémie, à tout ce qu'il ouvre, à tout ce qu'il emporte avec lui. Et la parole en analyse a ceci de particulier qu'encore une fois, qu'elle n'est pas informative, même peut-être pas communicative, et qu'elle est au plus proche de cette richesse de la langue.
D'où vient le pouvoir des mots dans l'analyse, de leur mouvement? Il est rare que ce pouvoir résulte d'une construction complexe, de l'ingéniosité d'une hypothèse, exclu qu'il passe par des termes savants ou une docte explication. Mais qu'à un certain moment, les mots manquent à l'un ou à l'autre, et c'est de ce creux, de cette dénivellation légère qui fait trébucher une activité verbale jusqu'alors, ce qui a fait défaut comme ce qui a illusoirement comblé. Par exemple, le visage d'une mère sous la lampe occupée à sa couture, tandis qu'on jouait non loin au domino. Parler avec des mots à moi, disent-ils un jour ou l'autre, fatigués de tant de paroles ingérées, empruntées, incrustées dans leur chair. La revendication est absurde, ils le savent. Les mots sont parties communes, comme l'indiquent les règlements de copropriété. Pourtant, il faut qu'ils viennent à son heure, ce vœu impossible dans le fléchissement de leur creuse, celui où l'emploi du temps et des mots, où la distribution de l'espace bascule. Quand les mots manquent, c'est qu'à son insu, on s'apprête à toucher un autre sol. Restez un instant sur vos mots, Jean-Bertrand Pontalis. Vous parlez d'un autre sol. Est-ce que vous pensez à un sol sur lequel on s'appuie ou à la note de musique?
Non, je pensais à un sol sur lequel on peut s'appuyer.
Vous me pardonnez cette polysémie, cet usage de la polysémie. Après tout, le texte appartient à son lecteur.
On n'a pas toujours en tête la polysémie d'un mot. Non, je pensais au sol, un sol qui peut être vacillant, qui peut trembler. C'est même peut-être quand il tremble que quelque chose va surgir. Mais on a aussi besoin d'un appui. Dans l'analyse, il y a ça aussi, et pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec une opposition trop tranchante entre psychanalyse et psychothérapie. La psychanalyse, je le disais, c'est une forme très particulière, mais une forme de psychothérapie. Et donc, ce que fournit justement qu'on appelle le cadre analytique, c'est-à-dire la permanence d'un lieu, la permanence des horaires, etc., c'est un sol. Et pour, il faut ce minimum de sol, si vous voulez, de sol, pardon, pour que puisse se déployer et ce temps aussi bien délimité pour que puisse se déployer un hors-temps, quelque chose qui échappe au temps, à la chronologie, au temps social, et se déployer un espace plus large que celui dans lequel nous nous mouvons.
Vous parlez dans ce texte d'une heure creuse. Le mot de creux est très important.
Très important.
Très important pour vous. Oui. Vous l'opposez d'ailleurs. Vous dites, les creux sont la respiration de ma vie. La mort, elle, est un trou.
Oui.
Quelle différence faut-il faire, donc, à cet égard, entre le creux et le trou?
Ce texte est assez parlant. Moi, j'aimais beaucoup les creux. Je crois que je le cite dans le petit passage auquel vous faites allusion. Vous voyez, les creux d'une dune proche de la maison.
Le ciel breton, les marges dans la page, la parenthèse, la coquille du Campo de Sienne. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. C'est un régal à lire.
Les creux. Et voilà. C'est à partir de ce creux, peut-être que j'écris. Ben, le trou. Écoutez, n'en parlons pas trop, hein. Il viendra bien assez vite. Vous êtes jeté dans le trou.
D'accord. N'en parlons pas davantage, alors. Mais derrière le creux, est-ce qu'il n'y a pas l'idée d'une réflexion sur le désir, Jean-Bertrand Pontalis? Puisque vous posez vous-même, alors je ne retrouve plus l'endroit où je l'avais noté, d'ailleurs, vous posez vous-même une différence. Enfin, vous dites, voilà, fenêtre ouverte, porte fermée. Vous parlez de l'ouverture et de la fermeture, de la plénitude et de la vacuité, comme finalement deux façons d'envisager le monde, deux façons également possibles d'envisager le monde. Est-ce que derrière ça, il n'y a pas tout simplement l'idée que le désir peut être alternativement manque ou excès?
Oui. J'emploie peut-être pas trop le mot désir, bien que le désir ne soit pas étranger, parce qu'il y a eu une telle inflation maintenant, notamment depuis Lacan et les Lacaniens, vous voyez, sur le désir, le manque à être, etc. Bon, c'est vrai qu'un désir n'est jamais comblé, et que, comme disait Freud, toujours revenir à lui, vous voyez, la pulsion ne connaît jamais la pleine satisfaction, la pleine, la complète, la totale, l'assouvissement total, sauf parfois en rêve, ou dans ce qu'il appelle l'hallucination primitive, et le rêve est une forme d'hallucination. Donc je ne veux pas entrer trop dans cette rhétorique, cette apologie du désir, la révélation de son désir, et tout ça, et être peut-être un peu plus sobre. Alors, je sais plus ce que vous me demandiez.
Le désir comme manque ou le désir comme excès. Après tout, la psychanalyse, qui à bien des égards est une discipline hautement subversive, reconduit au moins, alors on a vu que la psychanalyse avait comme lien avec la philosophie, entre autres, de travailler sur la dissociation et ou l'identification du corps et de l'esprit, de travailler également sur l'anamnèse, finalement, sur la maïeutique, la réminiscence, la façon d'abord de sculpter ses souvenirs, de les ressusciter, également de mettre au jour ce qu'on porte en soi, à son insu. Et en même temps, il y a toute une tradition de la philosophie, une tradition métaphysique de la philosophie qui indexe le désir sur le manque. Fait du désir, la nostalgie de l'étoile, étymologiquement, c'est ce que signifie le désir. Oui. Et Freud et Lacan, à sa suite, reconduisent cette définition. Définition du désir.
Oui, c'est toute une tradition. Même chez Sartre, on la trouve aussi, le désir comme manque. C'est pas très, très original. Alors, l'excès, où peut-on le voir
Tout simplement, non pas dans la nostalgie de l'étoile, mais dans l'absence de l'étoile.
Dans l'absence de l'étoile, peut-être dans la passion. Là, c'est aussi quelque chose qu'on connaît en analyse, entre la différence entre le transfert, l'amour de transfert, qui n'est pas toujours déclaré, et la passion transférentielle, et là, c'est très difficile de s'en sortir, parce que là, le patient ou la patiente, plutôt, veut être payé, si je puis dire, en livre de chair, hein, comme dit Shakespeare. C'est la personne, hein, c'est pas à travers vous, le père, la mère, tout ce qu'on voudra, c'est, elle veut vous posséder, hein, dans un excès de désir, qui va même au-delà sans doute du sexuel, une espèce de désir de besoin aussi, un désir besoin se mêle là vraiment de possession, alors qu'on peut éventuellement rattacher à la mère, mais ça ne prend pas, hein, comme posséder sa mère qui n'est jamais, mais qui est toujours possédée par un autre, hein. Le père en l'occurrence.
Enfin, dans le meilleur des cas.
Qu'est-ce que vous voulez dire pendant le meilleur des cas?
Non, c'est vous qui posez les questions, d'accord. Non, je pensais de posséder par un autre, c'est-à-dire dans l'hypothèse où il n'y a pas d'inceste.
Oui.
Guardati, nel tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Hai capito? Del tuo destino c'è scritto che assassinerai tuo padre e farai l'amore con tua madre. Questo dice il Dio e questo inevitabilmente si compirà. E adesso vattene di qui. Non contaminare questa gente con la tua presenza.
Jean-Bertrand Pontalis, quel est votre rapport, peut-on plus exactement comprendre à la lumière de ce que vous dites, le rapport qui était le vôtre à ceux que j'appelle, faute d'un meilleur mot, vos maîtres, c'est-à-dire en l'occurrence Sartre ou bien Lacan? De quelle façon vous êtes-vous éloigné d'eux et pourquoi, sous la pression de quelle nécessité? Et dernière question, avez-vous eu, en le faisant, le sentiment de conquérir, par-delà les déterminismes dont vous parliez au début de cette émission, une certaine forme de liberté?
Oui, je réponds sans hésiter, oui, une certaine forme de liberté, comme si j'avais besoin, c'est un peu la même chose en amour, d'être pris, d'être épris, bon, et de me déprendre. Et quand je me déprends, je ressens, et ça s'est traduit dans les faits, hein, par exemple... Pour Sartre, je m'arrange, je me débrouille pas trop mal quand même. Je m'arrange pour qu'il n'y ait jamais de rupture dure.
Avec Sartre, c'était compliqué de ne pas rompre durement.
Mais c'est passé.
Vous avez quitté les temps modernes.
Voilà, pour différentes raisons auxquelles je ne reviendrai pas, notamment l'histoire de l'amour magnétophone que je n'avais pas apprécié. Mais on s'est vu après, le lien était moins proche, mais il est demeuré. Avec Lacan, ça a été rude aussi, mais je me souviens de l'avoir rencontré après dans la rue, et nous sommes parlé un moment, il n'y a pas eu de conflit armé. Et ça m'a permis, ben vous le disiez, rupture avec l'état moderne, ça m'a permis de faire la nouvelle revue de psychanalyse, avec d'autres, mais enfin, qui était quand même un peu ma revue. La rupture avec Lacan, ça m'a permis d'écrire des livres.
Vous n'avez pu devenir écrivain qu'après avoir rompu avec Lacan?
Oui. Je crois bien, oui. Oui, oui, sauf que je suis un écrivain tardif, vous savez, mon premier livre littéraire, encore que je trouve que mes livres de psychanalyse n'étaient pas des traités, encore une fois, étaient lisibles, en tout cas, donc littérairement acceptables. Mon premier récit littéraire, j'avais dépassé de peu la cinquantaine, hein, donc j'ai un écrivain tardif, c'est encourageant pour d'autres.
Effectivement, est-ce que ça ne vient pas également d'une critique, j'allais dire implicite ou explicite d'ailleurs, du moment où le langage devient un outil politique? Que ce soit chez Sartre chez Lacan, sûrement, finalement.
Sûrement. Sûrement, parce que je me suis éloigné quand même outre les circonstances contingentes, quand Sartre a donné dans l'ultra-gauchisme, et là je ne suivais plus. Et Lacan, quand il a constitué de plus, ce qu'il appelait son école, une école avec un grand T, et qu'il appelait, même ses analysants, ses élèves. Donc il y avait quand même un souci d'emprise sur une collectivité dont il était le maître absolu. Et ça, je ne supporte pas.
L'enjeu derrière tout cela, c'est donc, comme dans une analyse, de s'approprier sa propre langue.
Oui, sa propre langue, en sachant que ce n'est pas la sienne. Enfin, essayer de l'infléchir vers soi, oui.
La hargne, souvent la haine, dont la psychanalyse semble désormais la proie, renvoie à une aversion plus profonde, la haine du langage, telle qu'elle s'exprime dans l'homme d'aujourd'hui. La méconnaissance de l'orthographe, la pauvreté confondante du vocabulaire, la grossièreté de l'expression orale, l'usage habituel de mots orduriers, plus graves encore, la dyslexie et la désarticulation radicale de la syntaxe, bien d'autres traits d'un mépris de la langue, sont les signes d'une catastrophe de l'expression verbale qui me paraît sans égale dans le temps. Foin des mots. L'image, le bruit triomphe, vacarmes et bombardements visuels ininterrompus, domination absolue du sensoriel sur le spirituel, le cerveau est pris par la vibration incessante et immédiate des décibels et des photons, au point qu'il n'a plus le temps ni le recul de penser, l'immédiat de la sensation a englouti l'être, plus question de souvenir, plus question d'anamnèse, trac acharné des silences, phobie irraisonnée des blancs, une seconde de silence sur l'écran de télévision paraît interminable, coûte cher à la production et produit, paraît-il, un effet désastreux. Ça n'est pas de vous, Jean-Bertrand Pontalis.
C'est du Finkielkraut?
Non, c'est du Jean Clerc. Ça pourrait être du Finkielkraut. Ça n'est que du Jean Clerc. On va s'arrêter là-dessus. Un grand merci, Jean-Bertrand Pontalis. Ça n'est que du Jean Clerc, il me pardonnera cette formule. Jean Clerc, c'est formidable, c'est dans son journal Atrabilaire, c'est paru chez Folio et c'est vraiment très bien. Alors de vous, Jean-Bertrand Pontalis, évidemment la liste serait trop longue, car ces livres que vous avez commencé à écrire à 50 ans, vous en avez écrit beaucoup. Citons, hein, L'amour des commencements, Le songe de Monomotapa, L'enfant des limbes ou Fenêtre au pluriel, pour ne citer que. Et puis citons-le quand même, hein, Le vocabulaire de la psychanalyse, La planche et Pontalis, paru aux presses universitaires de France.